là là.
9h, 10h, avis de sortie avec Philippe Robichon et Manuel Mariani sur Beurre FM.
Avis de sortie, c'est par ici la sortie. Le dimanche, on prépare vos sorties de la semaine. Bonjour, bienvenue, bon week-end. Maëva est là et elle a le caractère de sa tenue aujourd'hui.
Oui, mais vous ne voyez pas Maëva, mais elle est habillée en léopard.
Et je suis énervée comme un léopard énervé.
Ah, hey, voilà, la bête a poussé son cri.
Faut que vous sachiez que Philippe Robichon a une tête super énervante ce matin, avec ses lunettes et tout, il est super insupportable.
Moi je trouve que son bonnet, avec son bonnet nounours, c'est magnifique.
Je voulais mettre un casque ce matin en fait, j'ai dit parce que je vais me la faire. Mister Mariani, comment ça va?
Eh ben ça va très bien, dans la joie et la bonne humeur mon cher Philippe.
Bon, et dynamique?
Ça va, et vous, Philippe?
Très bien.
Très dynamique et dynamique.
Si, je suis très, très dynamique.
Très dynamique.
Et dynamite.
Et dynamite.
Ouais, j'accepte ce nouveau surnom.
Bon, Maëva, comment s'est passé votre croisière?
Ça s'est très, 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 très bien passé. Je suis très contente et fière de moi.
Bon, les gens, ce bateau était content.
Oui.
C'est l'événement dont tout le monde parle à Paris.
Il n'y a pas eu de noyé.
Non, il n'y a pas eu de noyé.
Enfin, recensé jusqu'ici.
Oui,
non.
C'est ça.
Non, parce que moi, je ne vois pas l'intérêt de faire du bateau ou de la péniche si à un moment, on ne peut pas dire un homme à la mer.
Mais tout le monde était sympa, donc on a noyé personne.
C'est vrai. Qu'est-ce que vous avez fait alors? Expliquez-nous, Maëva.
C'était trop bien. Les gens se sont rencontrés. Il y a des filles qui m'ont dit qu'elles n'arrivaient pas à croire qu'elles étaient en train de vivre ça, parce que ce sont des personnes qui ne s'autorisent jamais ce genre de choses. Et du coup, ça a été le plus beau des compliments. Et vraiment, tout le monde était content. Même des proches à moi qui ne croyaient pas.
Non, mais il n'y avait pas que des filles.
Non, il y avait des garçons.
Ah bon.
Et notamment, j'avais des proches à moi qui ne voyaient pas l'intérêt de faire un event sans conférence ou quoi. Et en fait, ils ont vraiment adoré. Et je vais en faire d'autres.
Bien! Et vous avez visité, puisque quand vous n'organisez pas de croisière, Maëva, vous êtes allée dans des salons, vous êtes allée au salon Vivre Autrement.
Oui, Maëva va partout. Donc j'étais au salon Vivre Autrement, qui est un salon éthique et bio. C'est l'événement référence de la consommation responsable. C'est du 15 mars au 18 mars au Parc Floral de Paris.
Oui, ça a commencé il y a 2 jours, donc.
Voilà.
Bon.
Et j'y étais le premier jour.
Donc il reste aujourd'hui, demain pour y aller, c'est ça?
Voilà. Okay. Donc le vendredi, samedi, dimanche, c'est de 10h30 à 19h. Et lundi, ça sera de 10h30 à 18h. Ça ferme un peu plus tôt le lundi. Donc pendant 4 jours, il y a plus de 430 exposants qui se réunissent pour inspirer, partager et faire découvrir le vivre mieux. Donc il y a un réel engouement pour le bio, etc. en ce moment. On se rend compte que vraiment on mange mal, qu'on fait tout mal en fait. Donc là-bas.
Ouais, c'est un sujet dont on parle souvent, dont dessus de table d'ailleurs, avec Philippe.
C'est vrai?
Le bio,
et
absolument.
Et vous, Manu, vous êtes bio ou pas?
Ah, moi, je suis très bio, pourquoi?
Non, c'était une question comme une autre.
Non, pourquoi vous pensez
elle doute, là, là, là.
Il est halal. Bref.
On peut être
halal et bio.
Ouais, là, on peut être bio.
On peut même être biolal.
Oui, alors sachez, on en parlera dans un prochain
dossier
de table, Philippe, mais sachez que y a les associations de défense des animaux se sont mis en tête de faire interdire le label bio pour les viandes halal, puisque les bêtes ne sont pas étourdies avant la sacrification, avant le sacrifice, pardon, sacrification, néologisme. et du coup, nos amis comme les jumeaux ou l'atelier de la viande ou autres qui essayent de faire de la viande
bonne
halal,
qualité.
Mais bio et de bonne qualité, pourraient ne plus avoir ce label bio bientôt.
Affaire à suivre.
À cause des militants qui n'ont que ça à faire.
Oh là là.
Alors, mais il va.
Voilà, désolé.
Bon,
alors, non, alors, parler de bio, j'en ai profité pour,
oui, oui,
pour
non,
en
mais
parler.
Oui. Voilà. Non, mais
le foie gras, c'est un autre sujet, c'est un bon sujet d'ailleurs.
Oui. Oui, moi, j'aime le foie gras accessoirement. Bon, bref. Alors, il y a des nouveautés dans cette édition. Donc, il y a le coin enfants et ados, avec de la mode, des livres, des produits pour bébés, des jeux, des séjours. Bref, tout un espace consacré à l'enfance qui accueillera aussi une garderie et des ateliers dédiés. Donc, c'est important d'initier les enfants dès le plus jeune âge au bio, parce qu'après, c'est trop tard. Regardez-nous. Donc, du coup, le Nutella, on peut plus s'en passer si on apprend à nos enfants le plus tôt possible à manger bio.
Là, vous parlez pour vous, Maëva.
Oui, je
Nutella,
parle pour moi.
Moi, je passe devant le pot sans arrêter.
C'est vrai, Manu?
Ouais.
C'est vrai?
Ouais.
Et vous, Philippe?
Un bon Nocciola, éventuellement, pourquoi pas, mais le Nutella...
Non plus.
Oh, j'y crois pas.
J'aime pas trop le chocolat.
C'est vrai? Ah, ok. Oui. Et vous, Philippe?
Non, pas de Nutella non plus.
Ok, bon, ouais. Autant pour moi. Je parlais donc pour moi. Alors, il y a aussi un focus sur les très jeunes entreprises. Il y aura un lieu où ils pourront faire un speech pour présenter leur démarche et faire découvrir au monde les idées qu'ils feront demain. Pendant 4 jours, les visiteurs pourront évoluer au sein des différents univers. Donc, il y aura se nourrir autrement, alimentation bio et végane, se faire du bien autrement avec des produits de bien-être bio. Parce que
vous dites végane, vous, pas vegan?
Je dis végane.
Il y en a qui disent végan. Il y en a qui disent végan et maintenant Maëva dit végane.
Je le dis tellement rarement. Ouais, donc on dit végane.
Végan.
Ils me charrient tout le temps, ces gens, j'en ai marre. Alors, se faire du bien autrement avec des produits de bien-être bien. Non, je rigole, bio. Bio, et il rigole même pas à mes blagues, je sens que vous rigolez.
Si, alors, non, je rigole à l'intérieur, parce qu'en fait, si vous voulez, je rigole, mais c'est un peu l'effet qui se coule, ça prend un peu de temps, le temps que je comprenne, que ça redescende.
Et s'habiller autrement, donc avec la mode éthique, s'évader autrement avec le tourisme durable, et oui, ça existe.
Ouais.
Habiter autrement avec du mobilier et décoration écologique. Bref, penser autrement. On va nous apprendre, pour toutes les personnes un peu comme moi qui aimeraient changer de mode de vie mais qui n'y arrivent pas, bah, c'est le lieu où aller. Voilà.
Bien, c'est le salon donc Vivre Autrement. Ça coûte combien? Alors, est-ce que...
Oui, j'ai le prix. Ça coûte 7 euros. J'ai payé cette fois-ci. Non, je rigole, je me suis renseignée. Donc c'est 7 euros. Et vous pouvez vous procurer des entrées gratuites au www.salon-vivreautrement.com. C'est au Parc Floral de Paris, Bois de Vincennes, dans le 12e, métro ligne 1, Château de Vincennes.
Elle a bossé, Maëva, cette semaine.
Ouais, j'espère qu'elle n'a pas bossé parce qu'habillée comme elle était, j'espère qu'ils ne vous ont pas gardé au bois, Maëva.
Au bois?
Non, mais la chasse est ouverte. Vous voyez. Eddie, vous avez découvert un lieu emblématique du cinéma français.
Exactement, Philippe. Je suis allé visiter le plus grand cinéma d'Europe. Ouais. On parle évidemment du Grand Rex. Et plus exactement, les Rex Studios. Vous embarquerez à bord d'un voyage dans le monde secret du cinéma avec la création d'un film à travers une série de décors, cabine de projection, bureau du directeur, plateau de tournage. C'est aussi l'occasion de découvrir les coulisses d'un monument du patrimoine français riche de son histoire et bénéficiant de son décor d'origine depuis 1932. Alors, on va parler d'histoire. Après la découverte du Radio City Hall, le plus grand cinéma de New York, Philippe Hellman, alors directeur du Grand Rex, s'enthousiasme à l'idée de créer la visite des coulisses de son antre. En 1998, les étoiles du Rex ouvrent leurs portes pour plonger les spectateurs dans les secrets du plus grand cinéma d'Europe. Pour nous en parler, nous recevons aujourd'hui Franck, guide au Grand Rex. Bonjour et bienvenue Franck.
Bonjour.
Bonjour Franck.
Alors, pour ma première question, elle va être toute simple. Est-ce que tout le monde peut venir visiter les Rex Studios?
Ouais, absolument. Il n'y a pas de restriction. Tout le monde, c'est de 5 à pas d'âge, et non, il n'y a pas de souci, c'est vraiment très familial, vous pouvez venir entre amis, famille, même il y a des gens qui viennent seuls, hein, qui font la visite tout seuls, mais c'est quand même mieux quand on est plusieurs.
Il y a Maëva qui demande si on peut mettre ses doigts sur l'écran.
Il n'y a pas de souci, on peut mettre ce qu'on veut, il n'y a pas de souci.
Ah bon, ça va alors.
Ma deuxième question, c'est plutôt, en fait, la visite, pour expliquer à tout le monde, elle est audio-guidée, donc il n'y a pas de guide, est-ce que c'est un plus?
Oui, parce que c'est un plus dans le sens où comme c'est audio guidé, on peut faire des départs toutes les 5 minutes. Tout est automatique, tout s'ouvre tout seul. Donc c'est vrai que ça, on peut faire des visites plus fréquemment que si c'était avec un vrai guide. Parce qu'on a des visites de la grande salle en parallèle, mais là c'était plus ponctuel. Alors que là, c'est quand c'est des vacances scolaires, c'est tous les jours de 10h à 18h. Et quand c'est hors vacances scolaires, c'est le mercredi, samedi, dimanche de 10h à 18h.
Alors pardonnez ma curiosité, Franck, parce que Eddie vous a présenté comme guide au Grand Rex. Si c'est audio guidé, vous faites quoi?
Justement, en parallèle, elle est bonne, très bonne. Non, c'est ce que j'étais en train d'expliquer, c'est qu'en parallèle, on fait des visites guidées qui sont ponctuelles et c'est des visites de la grande salle.
D'accord.
Parce que là, le parcours du Rex Studio, c'est autour de la grande salle. Ce n'est pas dans la grande salle.
Ouais, c'est une salle qui est magnifique, car la salle du Grand Rex.
Notamment derrière la toile de la grande salle. On monte un ascenseur
absolument.
Qui est derrière la toile.
C'est-à-dire que l'ascenseur part du dessous de la scène du Rex et vous montez carrément jusqu'au-dessus de la voûte étoilée. Et vous passez derrière l'écran.
D'accord. Bah, vous pouvez m'expliquer quel est l'intérêt d'aller visiter un cinéma?
C'est pas un cinéma comme les autres. C'est un cinéma qui a beaucoup d'histoire. Donc, c'est un cinéma qui accueille beaucoup, beaucoup de stars. Et puis, c'est pas qu'un cinéma. C'est aussi une salle de spectacle. On fait des conférences. On a même fait du patinage artistique sur la scène du Rex. Donc, c'est plus qu'un cinéma. Donc, c'est pour ça que ça vaut vraiment le coup de visiter ce monument historique de Paris.
D'ailleurs, dès qu'on rentre dans les Rex Studios, on a tous les cadres avec les signatures de toutes les stars qui sont passées par là.
Ah, j'ai oublié de signer quand j'y suis allé.
Ouais, c'est vrai.
Manu, j'ai pas trouvé. Si vous voulez trouver le mien, il est à côté de celui de Tom Cruise, juste à gauche quand vous rentrez.
D'accord. Oui, parce qu'il était en bas.
Ouais, voilà, c'est ça.
Oui, mais, Tom Cruise n'est pas très grand.
Mais Franck, qu'est-ce qu'on voit dans un cinéma? Parce qu'a priori, un cinéma, c'est simple, c'est une salle de projection et un écran.
Oui, sauf que là, Vous parlez de quoi? Vous parlez du parcours autour de la grande salle?
Oui, moi, je veux savoir ce qu'on voit, là. Moi, je vais aller vite.
Qu'est-ce qu'on apprend? Est-ce qu'on va vraiment dans les coulisses?
Alors, on apprend beaucoup de choses. On apprend déjà comment le Rex s'est construit. Le créateur Jacques Haï, qui était français d'origine tunisienne, ce qui explique un peu le décor oriental méditerranéen de la grande salle.
Ouais, c'est de l'art déco oriental.
C'est plus la façade extérieure qui est art déco, ouais. Je dirais. La salle en intérieur, c'est plus style baroque avec, en effet, des éléments d'art déco, mais c'est plutôt la façade extérieure qui est vraiment art déco du Rex. Donc ensuite, vous prenez l'ascenseur qui passe derrière l'écran. Ils vous apprennent plein de choses avec les jeux de lumière à l'époque parce qu'il y avait des attractions sur la scène du Rex. Parce qu'avant, il y avait une partie attraction et une partie cinéma. Vous montez carrément dans la reproduction de la cabine de projection du Rex. C'est quand même le lieu sacro-saint du Rex parce que s'il n'y a pas de cabine de projection, il n'y a pas de film. Et vous apprenez beaucoup, beaucoup de choses et vous apprenez comment se tourne un film. Donc vous êtes sur un plateau avec fond vert et après on incruste des effets spéciaux. Donc vous ressortez de cette visite, c'est un côté très ludique. Vous apprenez non seulement beaucoup sur l'histoire du Rex, sur le bâtiment, mais aussi comment se fait un film maintenant.
Mais c'est pas seulement une visite, donc il y a des animations aussi, hein. C'est ponctué d'animations,
c'est ça. C'est très interactif. Voilà. Et vous participez et vous ressortez de là, vous êtes un petit peu, la star du Rex quand vous ressortez des studios.
Alors, le Rex est de la même époque que le cinéma Le Luxor?
Le Luxor a été créé 10 ans avant.
D'accord. Mais ça reste la même époque, hein.
Ouais, d'ailleurs, c'est un peu le même style. C'est un peu le même style.
Dans la grande époque de l'art déco, c'est en plein dans le créneau années 20, années 40.
Les façades se ressemblent un peu, ouais.
Absolument, ouais. Ouais, absolument.
Alors, il y a une grande évolution qui menace le cinéma, ce sont les écrans numériques. C'est-à-dire que bientôt, il n'y aura plus de salles de projection et plus d'écrans comme on le connaît. Est-ce que c'est quelque chose qui menace le Grand Rex?
Non, je pense que le Rex se mettra toujours à la pointe de la technologie. Hein. Vous savez, le Rex a toujours été un cinéma très avant-gardiste. D'ailleurs, le cinéma, quand il était créé en 32, c'était vraiment l'entrée dans l'ère de la modernité. Et puis au Rex, on a un écran grand large, 300 mètres carrés, le dernier son 7.1. Quand vous voyez la façade du Rex, on a les LED style Broadway. Donc non, je pense pas. Je pense que le Rex est toujours adapté à son époque.
Ouais, restera une salle de cinéma.
Ouais. Et sont les fauteuils de cinéma les plus confortables de Paris quand même.
Ah bah oui, avec les appuis-têtes, fauteuils club, on est vraiment très très bien. C'est très cosy, ouais, absolument. Ouais.
Et petite anecdote.
Mais le Rex s'adaptera toujours.
La petite anecdote, puisque j'ai effectué la visite, etc. Il y a un spectacle qui depuis la création est toujours resté. C'est la Féerie des Eaux. Est-ce que vous voyez de quoi je parle?
Alors la Féerie des Eaux, la Féerie des Eaux, ça c'est une attraction qui a été importée sur la scène du Rex en 54 et de 54 à 67 à longueur d'année, il y avait cette Féerie des Eaux. Donc la Féerie des Eaux, c'est un spectacle, c'est un mini Versailles, hein, c'est un spectacle de fontaine de jet d'eau avec son et lumière, d'accord? Et donc c'est un spectacle qui était avant chaque film de 54 à 67 et à partir de 68, c'est devenu un élément d'attraction vraiment en période de Noël, c'est-à-dire de mi-novembre à début janvier. On a cette Féerie des Eaux qui est avant le film de fin d'année. Donc ça vous ramène vraiment à l'ère de ciné-spectacle qu'on avait à l'époque où on venait au cinéma, qu'il y avait une partie attraction et une partie cinéma.
Et qu'il y avait l'entracte, hein, avec les gens qui venaient avec leur panier pour rendre des glaces.
Absolument. D'ailleurs, pour la petite anecdote, quand Quentin Tarantino est venu présenter les 8 salopards au Rex, il y a quelques années, il a exigé une entracte avec ouvreuse et panier comme à la grande époque du cinéma.
Bonbon, chocolat, praline.
Voilà, absolument, c'est ça. C'est ça.
Eddy, on parle de prix avec vous, Franck? Combien ça coûte la visite?
Alors, la visite coûte 11€ tarif plein et 9€ tarif réduit.
D'accord, ça c'est pour la visite, il n'y a pas le film compris dedans. C'est juste pour la visite du cinéma. Hein.
Ah, si vous, le film que vous tournez dans le parcours, vous êtes en train de me dire, c'est ça?
Non, pour voir le film. Parce qu'il
y a,
il
y a des packs avec film.
Il y a des packs?
Oui, on fait des combis. Après, ça dépend l'âge que vous avez. Hein, vous avez, je crois que ça doit être 16,50 tarif réduit et 18,50 tarif plein.
C'est 17,50 les Rex Studio avec un film 2D.
Ouais, voilà, 17,50, ouais. Donc c'est un prix qui est très attractif et donc vous pouvez faire une journée ciné très sympa en ayant visité les coulisses du Rex, qui est très très sympa.
Voilà, un cinéma de la belle époque hein, sur les grands boulevards. On rappelle l'adresse, Eddy?
1 boulevard Poissonnière, 75009 Paris.
Merci Franck.
Je vous en prie, bonne journée.
Suivez le guide, merci à tous. Dans un instant, Manu, nous allons manger.
Oh, pas vraiment, on va regarder des choses
qui se mangent. Restez avec nous, c'est Avis de sortie jusqu'à 10h.
Avis de sortie, reviens dans un instant. 9h, 10h, Avis de sortie avec Philippe Robichon et Manuel Mariani sur Beurre FM.
C'est par ici la sortie de Dimanche Summer FM jusqu'à 10h avec Maëva, Manuel Mariani et Dynamique qui est là. Et Manu, vous nous emmenez sur la dalle de la Défense aujourd'hui pour nous parler de Festin et de Table Square. Vous avez déjà faim à cette heure-ci ?
Non, pas encore Philippe, parce que Festin c'est une exposition d'art contemporain, donc c'est de la nourriture pour les yeux. C'est sur l'esplanade de la Défense qui débouchera sur une vente aux enchères au profit de l'association La Source. Et cette opération, c'est une initiative d'Urban Renaissance. Alors tout ça, ça s'inscrit dans le cadre du lancement du projet Table Square, donc c'est le projet d'Urban Renaissance. C'est un nouveau lieu qui sera dédié à la gastronomie et qui verra le jour au dernier trimestre 2019. Donc le promoteur immobilier de Table Square qui s'appelle Urban Renaissance a invité l'association La Source à exposer du 26 mars au 17 juin sur l'esplanade de la Défense 32 artistes plasticiens de différentes générations, mais parmi les plus importants de la scène française. Alors chacun a été invité à interpréter à sa guise l'art de la table, d'où le nom Festin, hein. Donc le goût, les saveurs, la cuisine, les plats ou encore ses histoires ou ses mythes.
Alors déjà parlez-nous Manu de Table Square et en quoi ça consiste ?
Alors Table Square, ce sera pas moins de 4500 mètres carrés dédiés à la gastronomie. C'est un nouvel ensemble qui sera constitué de restaurants gastronomiques et non pas de fast-food qui sont déjà assez nombreux dans le quartier, hein. Le tout au cœur des sièges des grandes entreprises, hein, qui est fréquenté quand même, faut le savoir, par plus de 45 millions de personnes par an. Alors le but de ce programme Table Square, c'est de valoriser les espaces qui sont situés sous la dalle de ce qui est tout de même le plus grand quartier d'affaires d'Europe, hein, faut le savoir. Et on peut donc penser que le quartier de la Défense pourrait à terme devenir un véritable lieu de vie et de loisirs, hein. C'est comme ça qu'avait été vendu le projet au tout début, mais ça l'a jamais vraiment été. Et donc, y compris au-delà des heures de bureau, hein, jusqu'à présent, c'était pas vraiment gagné. Alors pour ceux qui connaissent un peu le site, hein, de la Défense, Table Square sera situé sur la place du bassin Agam, au pied des tours EDF et Cœur Défense. Et ça proposera, il y aura un restaurant gastronomique, une offre de bistronomie et puis un espace street food à emporter, mais tout ça signé par des grands chefs.
Vous nous avez aussi parlé de l'association La Source, Manu. C'est de la gastronomie ça aussi ?
Alors non, pas vraiment La Source, c'est une association à vocation sociale et éducative qui a été créée en 91 par le peintre Gérard Carousse, que personnellement j'aime beaucoup. Le moteur de cette association sont les artistes eux-mêmes, hein, puisqu'ils interviennent toute l'année en atelier avec des enfants et des jeunes confrontés à des difficultés d'adaptation sociale ou scolaire. Et les artistes soutiennent des événements exceptionnels qui permettent à l'association de récolter des fonds pour poursuivre son action auprès des enfants et des jeunes.
Et donc, La Source organise l'exposition Festin.
Oui, alors Festin, donc pourquoi ? Parce que, comme je vous le disais, ce sont des œuvres qui représentent des festins, des banquets, hein. Ça peut être une revisite du déjeuner sur l'herbe. Hein, c'est une exposition qui est très singulière même, puisque c'est à ciel ouvert et en plein cœur de la Défense, qui est généralement plutôt le centre des affaires que le centre de l'art contemporain, c'est le moins qu'on puisse dire. Peut-être sauf quand il y a des street artistes qui viennent poser leur bombe quelque part. Et donc du 26 mars au 17 juin, cette exposition à ciel ouvert, Festin, proposera de découvrir les œuvres de 32 artistes français, mais pas n'importe lesquels, hein, parmi les plus grands. Hein, et ce sera sur les palissades du chantier de Table Square. Alors chaque artiste a été invité à concevoir une œuvre originale sur thème de la gastronomie dans un format unique. Et elles sont donc reproduites et agrandies pour l'exposition. Alors, rassurez-vous, on n'expose pas les œuvres originales en plein milieu de la Défense. Et ces œuvres originales, par contre, elles seront vendues au profit de La Source à l'issue de l'exposition. Et parallèlement, il y a une dizaine d'œuvres réalisées par les enfants de l'association La Source, dont les enfants dont s'occupe l'association, sous la direction d'artistes et sur le même format et le même thème, qui viennent compléter l'exposition. Et durant les vacances scolaires de Pâques, un artiste de La Source réalise avec des jeunes du quartier de Paris La Défense et en partenariat avec l'ASD, l'association du site de la Défense, un atelier sur le thème du Festin.
Bon, et toutes ces œuvres seront ensuite vendues aux enchères. L'association espère récolter beaucoup de fonds avec ça ?
Oui, les prix risquent même de monter assez haut, Philippe, parce que Garbouz, c'est pas n'importe quel artiste, hein, vous le savez, et il a réussi à fédérer ses pairs autour du projet. Le casting est donc digne des plus grands événements internationaux d'art contemporain. Et puis, les œuvres exposées puis vendues ont donc été réalisées par de très très grands artistes qui sont pour la plupart des pointures de la figuration libre. Alors écoutez plutôt, hein, j'ai juste fait une petite sélection, hein. Il y aura entre autres François Baron, Damien Cabanne, Philippe Cognier, le très grand Hervé Di Rosa qui pour une fois a peint en noir et blanc, ce qui n'est pas dans ses habitudes, lui qui fait des œuvres si colorées que j'adore. Bien entendu, il y aura aussi une toile de Garouste, hein, ça c'est logique. Et puis d'autres artistes comme Olivier Masmonteil, Pierre Monestier, Eva Nielsen, Françoise Petrovitch, Gérard Rancinan, Antonio Segui, le grand Antonio Segui, Fabien Verchère, enfin rien que de grandes pointures de l'art contemporain, Philippe.
Et donc toutes ces œuvres seront vendues ensuite aux enchères ?
Oui, c'est ça, le point final du projet sera une exposition de ces œuvres originales pendant une semaine dans la prestigieuse maison de vente Piazza. Plaza à Paris. C'est pour ça aussi que je dis que ça risque de monter un petit peu les enchères, parce que les artistes sont très grands et la maison de vente est elle aussi prestigieuse. Donc cette exposition, elle sera suivie d'une vente aux enchères, donc de ces œuvres, dont l'intégralité des bénéfices sera reversée à l'association La Source. Alors cette vente, elle aura lieu après la fin de l'exposition, qui se terminera fin juin. Et donc vous pourrez aller découvrir l'exposition à ciel ouvert et donc gratuite des reproductions grand format de ces œuvres dès le 26 mars.
Une belle initiative, Manu, et l'association La Source, ça touche combien d'enfants ?
Alors, plus de 10 000 enfants participent. L'association n'est pas très connue, mais elle travaille quand même beaucoup, puisque plus de 10 000 enfants participent chaque année à ces ateliers qui ont pour ambition de leur apporter des valeurs positives et fondamentales comme la curiosité, la liberté, l'ouverture, l'appropriation, puis le sens du collectif aussi, qui manque parfois à beaucoup d'enfants qui ont du mal à se mélanger un petit peu et à s'intégrer. Et ces ateliers permettent aux jeunes de se construire en développant leur créativité, en les responsabilisant sur le plan personnel et collectif, et en travaillant avec eux la confiance en soi et l'esprit d'initiative. Et puis la finalité, vous l'avez compris Philippe, c'est de partager les œuvres réalisées au sein de l'association avec les populations des quartiers et cités défavorisés, afin de leur donner un accès proche et gratuit à l'art tout en agrémentant leur cadre de vie.
Et l'association est également implantée en province ?
Alors, l'association, elle est implantée dans 9 départements, et justement initialement c'était principalement en milieu rural, et c'est beaucoup plus récemment qu'elle s'est implantée en milieu urbain. En fait, l'idée, c'est clair, c'est un acteur fondamental dans la construction de la société et qui contribue à la valorisation de l'individu dès de son plus jeune âge. Donc La Source propose des ateliers à destination des jeunes et occasionnellement des familles dans tous les domaines artistiques, peinture, gravure, sculpture en terre, en bois, forge, photographie, vidéo, installation, art de la scène, street art qui plaît beaucoup aux jeunes, land art, écriture, films d'animation. Et tout ça, c'est mené par des artistes professionnels, vraiment des grands professionnels qui ont été sensibles aux objets de l'association, Philippe. Alors, comment se passent ces ateliers ? Parce que c'est en groupe, mais ce sont des petits groupes de 10 à 12 personnes seulement, ce qui permet donc un accompagnement individuel de qualité. Je vous vois sourire, Philippe, parce que comme j'ai pas écrit votre question en rouge, forcément, vous me l'avez pas posée.
Mais de quoi vous parlez ? Tout est fait spontanément.
Mais pas du tout, pas du tout, Maëva, on vous a menti. Et donc, chaque atelier est constitué d'un binôme avec un artiste et une personne de l'équipe éducative de La Source. Et tous deux travaillent en étroite collaboration avec les travailleurs sociaux du territoire d'implantation de l'association, donc des éducateurs, des assistantes sociaux, mais aussi des enseignants. Et ils veillent à la bonne intégration des enfants et effectuent tout au long de l'année un suivi de ceux qui sont le plus en difficulté. Voilà, donc ces ateliers permettent aux jeunes de se construire en développant leur créativité, en les responsabilisant sur le plan personnel et collectif, et comme je l'ai dit tout à l'heure, en travaillant avec eux, la confiance en eux, et puis l'esprit d'initiative.
Alors, comment on les contacte, Manu ?
Alors, toutes les informations sont sur le site www.associationlasource.fr, et puis sachez également que La Source, elle est ouverte aux collectivités locales et aux établissements scolaires, avec lesquels elle développe des ateliers spécifiques. Donc, elle accompagne les enfants sur long terme, parfois plus de 10 ans, faut le savoir. Donc, c'est vraiment une association qui fait un vrai travail de fond et sur du long terme. Et puis elle permet une reconnaissance effective du talent de ces jeunes à travers des manifestations publiques, puisque ces œuvres, c'est pas juste des œuvres qu'on fait et qu'on ramène à la maison pour maman, c'est des œuvres qui sont exposées, et donc ça valorise aussi leurs travaux ou leurs spectacles, puis il y a des spectacles aussi, l'artistique, c'est pas que de la peinture. Donc n'hésitez pas à en parler aux responsables de l'établissement scolaire de votre enfant, par exemple, si le projet vous séduit, ou des responsables associatifs qui seraient autour de vous. Bref, c'est une très belle initiative que j'avais à cœur de présenter à l'occasion de cette exposition, qui plus est gastronomique, festin. C'est du 26 mars au 17 juin 2019 sur la dalle de la Défense, Philippe.
Bon, maintenant que vous êtes très riche, Maëva, vous pourrez acheter une œuvre d'art.
Ah bah oui, absolument.
Mais bien sûr, c'est bagatelle pour moi. La plus chère.
Là, je peux vous dire que si vous allez attaquer les caisses du bateau, vous pouvez acheter de l'œuvre d'art.
Je ne sais pas si l'œuvre la moins chère de ces enchères
croyez
sera dans vos moyens.
Je pense
pas. Mais bien sûr que si.
Vous avez vu un peu la liste des artistes, Philippe.
Si, j'aurais bien récupéré du Agam, moi.
Ah bah oui, non mais...
C'était dans le salon de l'Élysée d'ailleurs.
Manu, je vois trop Philippe y aller à la vente aux enchères.
Ouais, non, mais alors je les connais pas bien, ces artistes-là, donc voilà.
Bah écoutez, c'est moi qui connais bien l'art contemporain et surtout la figuration libre, puisque ce sont des artistes principalement qui font de la figuration libre. Je peux vous dire que c'est un très 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 beau casting.
Manu, c'est le salon du livre à Paris.
Oui, alors attention, 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 moi je me suis fait gronder, on ne dit plus le salon du livre, on dit le salon Livre Paris. sous-titre Salon du Livre de Paris.
Voilà. Ouais, ça fait longtemps que c'est plus Salon du
Livre.
C'est
un peu de jeunisme hein, du côté du Salon du Livre. Alors c'est au 15 au 18 mars hein, à la porte de Versailles, Philippe. Hein, donc il reste aujourd'hui et demain hein, pour y aller.
Moi, chez Old School, en fait, pour moi, le Salon du Livre, c'était le Grand Palais. Voilà.
Bah, c'est vrai que c'était quand même vachement sympa au Grand Palais, mais c'est vrai que pour des raisons techniques et logistiques, l'événement est plus grand, entre guillemets. Il était plus
maintenant,
prestigieux.
Maintenant, c'est plus une foire, quoi. Bon.
Disons qu'il était plus grandiose au Grand Palais, et maintenant, il est plus grand à la porte de
Versailles.
À la porte de Versailles, voilà. Ouais. Donc, bon, c'est un mal pour un bien, Philippe, mais je vous comprends. Je vous comprends. Alors, cette année, c'est une année un petit peu particulière, hein, puisque l'Europe s'invite hein, au Salon du Livre. C'est vrai que c'est un événement qui a souvent été. On lui reprochait d'être trop franco-français. Hein. On sait que l'Europe aussi, c'est pas toujours bon pour la gastronomie. On en parlait tout à l'heure ou autre. Mais pour la culture, moi je dis l'Europe, pourquoi pas. Alors donc il y a pour la première fois hein, depuis la création du Salon du Livre, hein, qui est assez ancienne, l'intégralité des pays européens seront mis à l'honneur. Il y aura une scène qui sera spécialement dédiée à l'Europe. Et puis puisque on parle de l'Europe, hein, on peut parler aussi des régions françaises, puisqu'il y a un espace région qui permettra aux éditeurs indépendants régionaux de valoriser leur production auprès du plus grand public, parce qu'il y a aussi de très bons auteurs en région qui n'ont pas toujours accès aux éditeurs du 6e arrondissement hein, et qui souvent ne sont pas très bien édités. Donc c'est l'occasion aussi de les mettre en valeur, parce qu'il faut, nous les premiers parfois, hein, on est souvent trop parisianistes, hein, et faut pas oublier qu'en région il y a aussi des talents, Philippe. Alors, j'ai envie de vous parler un petit peu de chiffres, hein, parce que il y a quand même pas mal de chiffres assez impressionnants autour du Salon du Livre. Hein. On attend plus de 165 000 visiteurs en 2019. Hein. Alors, quand on dit que la culture est en perte de vitesse, c'est un chiffre qui est plutôt engageant. Sur le salon, sachez qu'il y aura 20 000 chèques lire distribués. Les chèques lire sont des livres qui permettent d'acheter totalement ou partiellement des livres donc gratuitement. Ce qu'il faut savoir, c'est que 89% des visiteurs font des achats lors de leur visite. Le panier moyen l'année dernière, c'était 92 euros contre 60 euros en 2017. Donc comme le prix des livres est assez constant, hein, c'est pas parce
entre
que
15 et 20 euros, on va dire.
Ouais. Ouais. Ça veut dire que la culture, ça marche. Et les gens se cultivent, achètent des livres, donc moi je suis assez content. Pas assez, Philippe, je vois faire la main.
Non, c'est pas pour ça, c'est qu'au Salon du Livre, les gens vont acheter des livres qu'ils font dédicacer par les auteurs qu'ils aiment.
Oui, il y a ça aussi,
donc,
bien sûr.
Donc c'est quand même, voilà.
Et c'est intéressant.
Et comme
aussi.
Toujours, ce sont les gros vendeurs qui continuent de vendre et il y a des queues devant les stars.
Oui, quoi. Alors là, il y aura la région aussi, les régions, Philippe, hein, qui seront mises à l'honneur. Il y a 3900 auteurs, hein, alors il n'y a pas que des très grands auteurs. Et puis, ça aussi, c'est plutôt sympa. Il y a 25 000 visiteurs de moins 18 ans. Et puis les groupes scolaires, hein, il y en aura 688 cette année. Les groupes scolaires, c'est en hausse de 25%. Donc ça aussi, c'est très intéressant. Voilà, je vais arrêter avec les chiffres.
Est-ce que c'est gratuit l'entrée ?
Alors non, c'est pas gratuit.
C'est ça que je comprends pas, parce que ça devrait être gratuit.
Oui, alors ça devrait être gratuit, sauf que comme c'est quand même un grand barnum et que ça coûte très cher à organiser, il faut quand même payer. Alors pour les tarifs, il y a
les éditeurs payent leur stand. Hein.
Voilà. Non, donc si vous y allez la semaine, donc si vous y allez demain lundi, ouais, ça vous coûtera 8 euros. Si vous y allez aujourd'hui dimanche, ça vous coûtera 10 euros. Le pass illimité à 29 euros, c'est pas la peine. C'est intéressant sur les 4 jours, mais comme ça a déjà commencé, vous laissez tomber. Et puis le tarif réduit, c'est 6 euros. Donc quand même, ça reste quelque chose d'assez raisonnable, même si on pourrait effectivement espérer que ce soit gratuit. D'ailleurs, si le ministère de la Culture nous écoute,
si on va
pourquoi
les
vous
gens
ne financez pas le Salon
Bien
du
sûr,
Livre
hein.
Ça devrait être organisé par le ministère de la Culture,
voilà,
et effectivement être totalement
gratuit. Entrée libre et gratuite pour tous ceux qui aiment lire, voilà, et qui achètent des livres.
Et au Grand Palais pour faire plaisir à Filou.
Voilà, laissez passer les geeks. Dans un instant, on retrouvera Eddy et Fabrice. Fabrice,
absolument,
pour sa chronique geek.
Avis de sortie, reviens dans un instant. 9h, 10h, avis de sortie avec Philippe Robichon et Manuel Mariani sur Beurre FM.
Voilà, et Maïva est avec nous, et Dynamique, et Fabrice qu'on retrouvera tout à l'heure pour l'actu des jeux. Mais Eddy, vous
et
êtes...
Et moi, je compte pour des prunes.
Bah, vous êtes pistonné parce que vous êtes dans le générique. Philippe Robichon, Manuel Mariani.
Maïva Ducré et Dynamique, hey.
Alors, Maïva Ducré,
nous,
pour d'autres raisons.
Permanents,
voilà. Maïva Ducré n'est pas dans le générique. On préfère pas la mettre parce que bon, c'est trop aléatoire.
Si vous préférez mon générique, votez 1.
Allez, votez un. Eddy, vous êtes allé faire un tour cette semaine et vous êtes enfin allé assouvir un de vos rêves.
Exactement. Je suis enfin allé au manoir de Paris. Depuis des années, j'entends parler de ce lieu. Mais d'abord, est-ce que vous savez ce que c'est ?
Alors, moi, je savais ce que c'était, puisque j'y suis allé pendant très longtemps, au manoir de Paris, avant que ça devienne le manoir de Paris.
Ouais, mais avant, c'était des parties fines, non ? C'est pas ça.
Non, le manoir de Paris, c'est. Maintenant,
c'était. C'est pas un hôtel ?
Non,
non, mais on en a parlé pour Halloween.
C'était le restaurant de Denis Fabre.
Absolument.
Voilà.
Très bien, bon. Bah, pour ceux qui ne savent pas.
Bah, voilà, bah oui. Voilà.
Très bon restaurant, d'ailleurs. Bah, ouais.
Le manoir de Paris, qu'est-ce que c'est aujourd'hui ? Puisqu'on va pas parler de passé, mais de futur aujourd'hui. C'est une attraction qui reconstitue les légendes les plus effrayantes de Paris. Ce lieu est devenu une sorte de maison des horreurs avec des parcours qui s'étalent sur plusieurs étages. À certaines périodes de l'année, comme vous l'avez dit Philippe, à Halloween, il y a des thèmes qui changent. Dans mon cas, le fil conducteur était les légendes de Paris, entre les salles de torture, les chambres de petites filles ou autres cathédrales. Les mises en scène sont vraiment à couper le souffle.
Donc en fait, si c'est la maison des horreurs, on aurait pu y emmener Maïva.
Oui. Ah, mais je suis une légende de Paris d'ailleurs.
Ah, vous êtes figure durante là-bas.
Il y a quoi c'est ça, comme exactement. Légende de Paris
sans maquillage.
Je peux pas vous spoiler sinon j'en dis trop maquillage. Mais vous verrez.
Il y a une photo de moi sans maquillage sur Insta, d'Imaginabie, je suis très belle.
Non oui. Mais c'est pour ça qu'elle s'habille en léopard, c'est parce que comme elle se dit que maintenant la tendance c'est de ne pas maltraiter les animaux, elle se dit au moins je suis tranquille.
qu'est-ce que j'allais te dire ? C'est quoi les légendes de Paris par exemple ?
Je peux pas trop en parler puisque
bah, pas vous en dire pas
spoiler. Je ne connais pas moi.
Bah, vous verrez bien en y allant.
Ok, d'accord, il la joue comme ça.
Bon, et je lui dis, Eddie, comme elle est un peu radine, il va falloir lui donner une invitation. Hein. Alors, c'est encore une arnaque, à mon avis, votre histoire. Une boîte à musique et un clown, Eddie.
Détrompez-vous, Philippe, vous ferez souvent crier dessus par des acteurs déguisés en des créatures effrayantes. Mais honnêtement, c'est marrant, c'est juste pour vous mettre dans l'ambiance. Je peux vous dire que les gens ferment leur bouche et se rangent très rapidement. Il faut dire que les maquillages sont saisissants et que les comédiens sont vraiment convaincants. Il y a beaucoup de passages dans l'obscurité, pour le coup. Honnêtement, c'est pas franchement l'attraction à faire toute seule, donc Maïva, constituez-vous une équipe. C'est vraiment plus sympa en groupe pour pouvoir se cacher derrière ses amis.
Mais j'ai pas d'amis.
Et faites attention aussi, je vais rajouter quelque chose, c'est que enfin, en tout cas, ça
elle est obligée d'organiser des événements payants pour avoir des amis.
pour vous déstabiliser, on vous sépare de votre groupe. On rentre dans une salle, on dit les autres partez, et vous restez là.
Ah bon, donc j'y vais comme ça, c'est bon.
Bonne chance à vous.
Allez, tiens, on parle d'argent, Maïva, écoutez bien.
Alors, le prix par place est de 29€, tarif adulte. Les moins de 16 ans, eux, ne
c'est
payent
pas 27,
que...
C'est pas 27.
Non, ça a changé
euros.
Maintenant,
ah, ça a
c'est
changé.
Devenu 29. Les moins de 16 ans, eux, payent 20€. Pour ceux qui veulent se la jouer VIP et qui ne supportent pas la foule, vous pouvez acheter des billets coupe-fil à 37€. L'adresse du manoir de Paris, c'est le 18 rue de Paradis dans le 10e arrondissement. Les horaires d'ouverture, le vendredi de 18h à 21h30 et le week-end de 15h à 18h30.
Ouais, ce que j'aime beaucoup, c'est que ce soit rue de Paradis. Hein, aller en enfer, rue de Paradis, je trouve ça assez sympathique.
L'oxymore.
Quel poète.
9h, 10h, avis de sortie avec Philippe Robichon et Manuel Mariani sur Peur FM.
Comme toutes les semaines, nous terminons cette émission avec un petit tour d'horizon sur ce qu'il ne faut pas rater en matière de sortie de jeux vidéo. Avec toi Fabrice, bonjour.
Bonjour Philippe, bonjour à tous.
On commence donc cet Actu Gaming avec ton coup de cœur de la semaine qui n'est autre que la plus grosse sortie du moment.
Oui, et c'est peu de le dire tant ce jeu avait suscité une telle hype et une telle attente depuis son annonce. J'ai bien sûr nommé Devil May Cry 5. Si vous n'avez jamais joué à un épisode de cette incroyable série, Devil May Cry est un beat'em up pur jus, particulièrement nerveux, où vous vous retrouvez seul à affronter des hordes de démons les plus puissants les uns que les autres. Il aura donc fallu 11 ans pour offrir une suite à Devil May Cry 4 et retrouver les tueurs de démons les plus badass de la planète et ainsi conclure par la même occasion l'histoire des fils de Sparda, débutée il y a 18 ans de cela. C'était alors en 2001, souvenez-vous. C'était sur PlayStation 2. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que cette attente en valait la peine, tant cet épisode final de cette saga revient plus beau, plus grand, plus fort et surtout bourré de nouveautés, à commencer par la possibilité d'incarner non pas un, ni deux, mais trois personnages. On retrouve bien évidemment Dante, le héros principal de la série, mais aussi Nero, issu du 4e épisode, et V, un tout nouveau personnage particulièrement atypique. Trois personnages donc, aux capacités, spécificités et prises en main bien distinctes, qui auront pour particularité de vous offrir une expérience de jeu radicalement différente, à tel point que vous aurez presque l'impression de jouer à trois jeux totalement différents. Je ne vais pas tourner autour du pot, Devil May Cry 5 est un jeu tout simplement exceptionnel comme on en fait peu. Aussi généreux que bien fini, Devil May Cry 5 offre une expérience de jeu particulièrement satisfaisante, comme j'ai coutume à le dire, tant les personnages sont parfaitement réactifs et les enchaînements frôlent la perfection d'une mécanique de précision. Un jeu qui se décompose en une vingtaine de chapitres à la difficulté progressive et qui va nous prendre intelligemment par la main au départ pour nous guider et enfin nous pousser dans nos retranchements sur la fin du jeu. Porté par une réalisation graphique de haute volée comme on en voit peu, des animations à couper le souffle, une bande-son entêtante et une ambiance totalement barrée, Devil May Cry 5 a su se renouveler sans jamais trahir l'ADN qui a fait tout le succès de cette série. Devil May Cry 5 de Capcom, c'est clairement l'un de mes coups de cœur de ce début d'année et je ne peux que vous conseiller de l'essayer au plus vite. En plus, c'est dispo depuis quelques jours, c'est sur PC, PS4 et Xbox One.
Un coup de cœur en cache souvent un autre et on va cette fois parler d'un jeu de moto qui sort totalement de l'ordinaire.
Alors permettez-moi, si vous ne le connaissez pas, de vous présenter la série des Trials, des jeux de moto particulièrement atypiques, puisqu'ici il n'est pas véritablement question de pistes, de courses ou de compétitions de vitesse à proprement parler, non. Trials et son dernier épisode Trials Rising, c'est comme son nom l'indique, un jeu de Trials, de trial en français, que l'on pourrait traduire par une discipline de franchissement d'obstacles. Vous serez donc au guidon de votre moto et vous aurez pour objectif de foncer vers la ligne d'arrivée tout en évitant de chuter sur un nombre incalculable d'obstacles ou de nombreux pièges que vous allez avoir tout au long du parcours. Pour cela, vous n'aurez à votre disposition que deux boutons, accélérer et freiner. Vous l'aurez compris, Trials Rising est un jeu de moto qui se présente donc comme un jeu de plateforme où vous allez devoir faire preuve de beaucoup de doigté, de concentration et de dextérité pour arriver à la fin du parcours sans encombre. La mécanique de jeu de Trials Rising est d'une simplicité enfantine, mais ne vous méprenez pas, sa maîtrise vous demandera un niveau de précision et de coordination assez pointu. Les chutes sont aussi drôles que nombreuses, mais l'expérience est finalement assez gratifiante tant la prise en main est précise. Typiquement le genre de jeu facile à prendre en main, mais bien plus complexe à parfaitement maîtriser. Fun, drôle et exigeant, Trials Rising est incontestablement un jeu hors du commun auquel je ne peux que vous recommander de jouer au moins une fois dans votre vie. C'est pour moi depuis plus de 10 ans une licence coup de cœur et le dernier épisode Trials Rising qui vient de sortir ne déroge pas à la règle et je ne peux que vous conseiller d'aller le récupérer. C'est en tout cas dispo depuis quelques jours, c'est sur PC, PS4, Xbox One et pour la première fois sur Nintendo Switch.
On continue avec non pas un, mais plus d'une vingtaine de jeux tous réunis dans une compilation que visiblement tu nous recommandes chaudement.
Alors vous savez Philippe, moi dès qu'il est question de vieux jeux vidéo et de gros pixels qui tâchent à l'ancienne, moi je suis aux anges. Et à l'occasion du 40e anniversaire de la société SNK, eh bien ils ont réuni en une seule et même compilation près d'une trentaine de leurs plus gros succès arcade des années 70-80, juste avant l'âge d'or de leur Neo Geo. Bien plus qu'un simple regroupement de titres, c'est tout un pan de l'histoire du jeu vidéo arcade qui se retrouve au menu de cette compilation du 40e anniversaire de la SNK, avec au programme des shoot'em up avec Alpha Mission ou Vanguard, mais aussi des jeux de tir en vue dessus avec les classiques Guerrilla Wars et bien sûr tous les épisodes de Ikari, du beat'em all bien sauvage avec POW, mais aussi Street Smart, l'un des ancêtres du premier Street Fighter. Enfin, on retrouve aussi des jeux d'action et d'aventure avec Chrysalis en vue de dessus, mais aussi Athena et Psycho Soldier en vue de côté avec un design très typé manga du début des années 80. Ce qui est dingue, c'est que des années après, tous ces jeux, pourtant quasiment néandertaliens dans l'histoire du jeu vidéo, gardent énormément de charme et de potentiel ludique. Et c'est justement là où on se rend compte de la qualité incroyable de l'œuvre de SNK, une entreprise qui nous a systématiquement proposé des jeux absolument superbes, particulièrement bien finis et accessibles au plus grand nombre, même des années après. Alors pour moi, la compilation du 40e anniversaire de la SNK, c'est un jeu que je vous conseille doublement. Déjà, si vous ne connaissez pas ces titres, vous allez pouvoir avoir une sélection de ce qui se faisait de mieux à l'époque et découvrir des licences emblématiques et absolument cultissimes. Et bien évidemment, si vous les connaissez, ce sera une formidable occasion d'y rejouer et de les faire découvrir à vos enfants. La compilation du 40e anniversaire de la SNK, c'est à ne surtout pas manquer. C'est dispo depuis quelques jours sur Nintendo Switch et dans les prochains jours sur PlayStation 4.
On reste dans l'univers des jeux à l'ancienne du début des années 90 puisque tu vas maintenant nous parler de la sortie d'un jeu qu'on avait presque totalement oublié.
Oui, j'ai moi-même été assez surpris de la voir revenir ces dernières semaines sur PC et console. Toe Jam et Earl, un titre qui risque essentiellement de parler aux anciens puisqu'il nous fait replonger directement au début des années 90. Souvenez-vous, c'était alors sur la Mega Drive de Sega. À l'époque, chaque développeur proposait et essayait d'imposer ses personnages comme mascottes de leur console. Il y avait bien sûr Super Mario chez Nintendo, Sonic chez Sega, puis une ribambelle de héros qui ont débarqué et qui ont plus ou moins traversé les âges, comme James Bond, Bubsy, Mr. Nuts ou encore Earthworm Jim. Et parmi tous ces personnages plutôt cool, débarque en 1991 un tandem d'extraterrestres rappeurs complètement barrés, Toe Jam et Earl. Près de 30 ans après la sortie du titre original, voici donc Toe Jam & Earl Back in the Groove, un comeback que l'on doit aux fans du jeu qui ont répondu au lancement d'un financement participatif pour relancer la licence avec près d'un demi-million de dollars récoltés. Le résultat est assez déroutant et on joue clairement sur ce que l'on appelle le fanservice. Entendez par là que le titre est extrêmement fidèle à l'œuvre originale, à tel point qu'il a conservé son gameplay et ses mécaniques de jeu de l'époque sans véritablement y apporter de modernité ou se soucier d'essayer d'initier les nouveaux joueurs à cet univers assez atypique, il faut en convenir. Comme il y a 28 ans, il vous faudra donc récupérer les 10 pièces du vaisseau spatial de notre duo de rappeurs intergalactiques qui ont été éparpillées au moment de leur crash. Toe Jam & Earl Back in the Groove offre donc aux fans du titre de l'époque un sacré voyage dans le temps qui finalement n'a pas pris une ride, tant le titre est similaire pour ne pas dire calqué sur l'œuvre originale. Toe Jam & Earl Back in the Groove, c'est désormais disponible depuis quelques jours, c'est sur PC, PS4 et Xbox One.
Terminons ce tour d'horizon des sorties jeux vidéo de la semaine avec, une fois n'est pas coutume, une actualité du côté de la Nintendo 3DS.
Oui, et on peut dire que les actualités ne se bousculent pas beaucoup sur la console portable de Nintendo, tant la Switch lui fait de l'ombre ces derniers temps. Malgré tout, c'est un vrai plaisir de vous présenter la sortie ces derniers jours de Kirby au fil de la grande aventure, les nouvelles aventures de Kirby, le petit glouton tout rose de Nintendo. Déjà sorti en 2011 sur la Wii, Kirby au fil de l'aventure revient dans Au fil de la grande aventure, une version revue et améliorée avec plein de nouveaux contenus pour faire plaisir aux petits comme aux grands enfants. En arrivant sur 3DS 8 ans après sa sortie initiale sur Wii, Kirby au fil de la grande aventure est un bon petit jeu de plateforme qui va absolument ravir les plus jeunes ou les joueurs très occasionnels qui n'aiment pas forcément la difficulté ou le challenge des jeux du moment. Avec des graphismes aussi soignés qu'originaux, le dernier Kirby est une expérience originale, décalée et très agréable à prendre en main. Les interactions avec le décor sont nombreuses et on prendra un malin plaisir à se balader au travers des différents niveaux débordants de couleurs. En plus, plein de mini-jeux, de petits bonus et d'améliorations viennent enrichir le jeu de base pour en faire un jeu complet vraiment agréable à jouer, même pour les néophytes, ce qui est quand même plutôt rare en ce moment. Kirby au fil de la grande aventure, un chouette jeu de plateforme à mettre entre toutes les mains et à découvrir dès à présent sur Nintendo 3DS.
Bien, merci Fabrice. Je rappelle qu'on peut retrouver cette chronique et la liste de tous les jeux que tu nous conseilles chaque semaine directement en podcast sur notre site internet beurrefm.net. À la semaine prochaine Fabrice.
Merci Philippe, à la semaine prochaine.
Quant à nous, on vous souhaite de passer un très bon week-end sur Beurrefm. On parlera cinéma avec Christophe et Camille dans Studio B. Et je vous donne rendez-vous tout à l'heure en direct entre midi et 13h pour le Book Club de Beurrefm. Bon dimanche à tous.
Retrouvez Avis de sortie tous les dimanches de 9h à 10h et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM.